Bonjour à tous.
Bonjour.
C'est drôle parce que quand je suis entré tout à l'heure, j'ai vu Eric et je me suis dit, j'ai déjà vu quelque part ce gars. Et j'arrivais pas à le situer. Puis après j'ai vu sa femme arriver, je me suis dit, mais elle aussi je l'ai déjà vu quelque part. Et puis j'ai fini par faire le lien. Donc effectivement, il y a peut-être 5 ans, 4-5 ans au moins, on s'était croisés au GBU. Donc c'est rigolo de vous revoir comme ça ici, c'est un plaisir en tout cas. Et ça fait plaisir d'être, je ne cherche pas à faire un jeu de mots qu'on vous a déjà fait souvent, mais ça fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Et nous allons donc étudier un peu la parole de Dieu dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et ce matin, on va s'intéresser aux versets 1 à 17 du chapitre 8, donc, de cette lettre de Paul aux Romains. Donc, Romains 8, 1 à 17. Mais je voudrais vous poser quelques questions pour introduire ce moment. Je voudrais vous demander si le fait d'être chrétien, c'est la chose la plus enthousiasmante de votre vie. Est-ce que le fait d'être chrétien, c'est quelque chose qui vous fait vibrer? Est-ce que vous êtes conscient de vivre quelque chose d'incroyable? Alors, en vous posant cette question, je ne cherche pas à vous mettre la pression ou à vous culpabiliser. Parce que je sais ce que c'est que la vie de tous les jours. La vie de tous les jours avec ses petits tracas, avec ses grands problèmes aussi quelquefois, avec des petites joies ou des drames, et puis surtout beaucoup d'activités, beaucoup de choses tout le temps. Que ce soit les études pour les uns, le travail pour les autres, la retraite pour les autres, les amis, la famille. Et on a souvent l'impression que toute cette activité ne nous donne pas beaucoup de temps pour réfléchir à ce que ça veut dire d'être chrétien. Qu'est-ce que c'est, au fond? Et je sais aussi que trop souvent, être chrétien, ça finit par vouloir dire pour nous faire certaines choses et ne pas faire certaines choses. Je suis chrétien, donc je vais à l'église le dimanche. J'essaye de lire un peu ma Bible le matin. Je suis chrétien, donc j'essaye d'éviter un langage vulgaire. J'ai des principes de morale personnelle assez exigeants, etc. Mais est-ce que c'est vraiment cela, être chrétien? Alors évidemment, n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je vais certainement pas vous dire d'arrêter d'aller à l'église, d'arrêter de faire votre lecture quotidienne, de vivre une vie dissolue, de devenir vulgaire. Bien sûr que non. Mais je crois que la vie chrétienne, c'est beaucoup plus que cela. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un peu de temps pour voir ce que l'apôtre Paul nous dit à ce propos. Et je voudrais que ce matin, on puisse comprendre ou mieux comprendre que être chrétien, appartenir à Christ, c'est un privilège tellement magnifique que c'est quasiment inimaginable. Puis mon deuxième objectif, ça serait en fait la conséquence du premier, c'est que chacun retourne chez soi rempli de joie. Pour la simple raison qu'il ou elle est chrétien, ou on dirait les choses autrement, pour la simple raison qu'il ou elle appartient à Jésus-Christ. Donc c'est assez ambitieux comme objectif. Mais pour réfléchir à la vie chrétienne, donc je vous propose d'étudier ensemble ce qui est, je pense qu'on peut dire, l'un des plus beaux chapitres du Nouveau Testament, donc le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Alors certains d'entre vous connaissent sans doute assez bien la lettre aux Romains, peut-être que d'autres la connaissent moins bien, ou peut-être que d'autres ne la connaissent pas du tout. Peut-être une petite remise en contexte quand même sera utile. Donc c'est un livre biblique qui traite de sujets quand même assez graves, il faut le dire. Dans cette lettre, l'apôtre Paul, le rappeler, était un ancien persécuteur de chrétiens, devenu envoyé de Jésus-Christ parmi les nations. L'apôtre Paul, donc, explique que tous les êtres humains sont pécheurs. C'est-à-dire qu'ils se sont tous révoltés contre Dieu, de multiples façons. Et Paul va passer plusieurs chapitres de la lettre à montrer qu'il n'y a rien que vous et moi nous puissions faire pour nous sortir, en fait, du dilemme suivant. Ce dilemme, c'est que Dieu est juste et saint, et que par conséquent, il est totalement opposé au péché. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est juste, parce qu'il est saint. Or, nous sommes pécheurs, nous dit Paul, et par conséquent, nous n'avons aucune chance, par nous-mêmes, aucune chance, d'entrer dans une quelconque relation avec notre Créateur. Donc jusque-là, ça paraît pas très encourageant, hein. C'est assez implacable, on a Dieu qui est saint, on a l'homme qui est pécheur, aucun contact possible. Bien au contraire, l'homme est livré même à la colère de Dieu, nous dit Paul. Et c'est une colère juste Parce que Dieu voit l'homme, cette créature, tant aimée, placée au centre de la création, le défier et le mépriser, jour après jour, par l'ignorance, l'indifférence, l'idolâtrie. Mais heureusement pour nous, Paul ne s'arrête pas là. Il va expliquer, on commence au chapitre 3 de l'Épître, que Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ, celui qui est, pour citer Hébreux 1, verset 3 par exemple, le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de sa réalité même, donc le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ s'est librement donné pour subir à notre place la colère de Dieu contre le péché des hommes. Lui, le seul à n'avoir jamais péché, s'est substitué à nous. S'est substitué aux hommes et aux femmes pécheurs, et il est mort en payant de sa vie le prix de tous ses actes de révolte, du péché dans toutes ses formes, qu'il soit individuel, qu'il soit collectif, du péché de l'homme contre Dieu. Et c'est ainsi que, nous dit Paul, nous pouvons obtenir donc le pardon total et le pardon définitif de Dieu, simplement en recevant ce qu'il nous a offert, en plaçant notre foi dans ce don gratuit de Dieu. En fait, c'est en arrêtant d'essayer de nous en sortir par nous-mêmes et en nous confiant à ce que Dieu a gratuitement fait pour nous. Donc voilà la bonne nouvelle qui est au centre de la Bible. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est une bonne nouvelle qui est bien comprise, bien connue, peut-être pas pour tout le monde. Et Paul explique tout cela dans les chapitres 1 à 7 de l'Épître aux Romains. Et donc on arrive au chapitre 8, et il va parler en fait au chapitre 8 de la vie nouvelle de celui ou celle qui s'est tourné vers Jésus-Christ. La rencontre avec Jésus-Christ transforme la vie. Lorsqu'on est entré dans une relation nouvelle avec le Créateur, on ne peut pas prétendre qu'on va continuer comme si de rien n'était. Ah bah tiens, tant mieux, c'est sympa, et puis je reprends ma vie comme la veille. Parce qu'on entre en relation avec le Dieu vivant. C'est forcément quelque chose qui transforme la vie de fond en comble. Voilà, donc j'arrive enfin à la lecture du texte. Je vous invite donc à lire avec moi ou à écouter les versets 1 à 17. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or, la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Alors, il y a deux séquences principales, je crois, dans la pensée de Paul dans ce texte, même si on pourrait certainement diviser le texte autant qu'on veut. Mais je dirais qu'il y a d'abord une comparaison quelque part de l'avant et de l'après, donc de la vie avant et après la conversion à Christ. Et puis ensuite, il y a une description de ce que Paul va appeler la vie par l'esprit. Donc j'appellerai ma première partie d'une loi à l'autre, et ça c'est plutôt les versets 1 à 11, et puis ensuite les versets 12 à 18, la vie par l'esprit, tout simplement, vivre par l'esprit. Alors j'imagine que bon nombre d'entre nous, je ne sais pas combien, mais peut-être en particulier les jeunes générations, ont vu le film Matrix, qui est sorti, bon, ça fait un moment maintenant. Moi, je l'ai vu trois ou quatre fois, je pense. C'est un très bon film, à mon avis. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Ça sera en DVD maintenant. Mais... si vous ne l'avez pas vu, j'espère que vous me pardonnerez cette petite allusion. Mais à la fin de ce film, il y a une scène qui m'a frappé. En fait, c'est la toute dernière scène. Alors là, je gâche un peu pour ceux qui n'ont pas vu. Mais enfin, c'est dommage. Donc, après que Neo, le héros, est revenu à la vie, après s'être montré totalement invulnérable à toute attaque, on voit donc Neo qui marche avec Trinity, son ami, et il marche dans la rue, donc avec son gros imperméable noir. Il y a une musique triomphante dans l'arrière-plan. Et puis il y a un commentaire, donc en voix off, hein, c'est vraiment tout à la fin du film. Et en fait, Neo regarde le monde autour de lui, il voit les gens qui marchent dans la rue, comme toujours, comme avant. En apparence, le monde n'a pas changé. Mais il sait pourtant que quelque chose de fondamental s'est passé. Que derrière cette surface, qui semble être la même, tout a changé en fait. L'espérance est revenue dans le monde. Le monde, c'est de la fiction bien sûr, le monde a été libéré de la matrice. Au début du chapitre 8 de cet épître, Paul aussi nous parle, mais là c'est plus sérieux, nous parle d'un avant et d'un après. Et il nous parle aussi d'une libération. Alors quel type de libération? Eh bien, il appelle ça une libération de la condamnation. Si on voit le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors vous remarquerez peut-être que Paul utilise un vocabulaire de type juridique. Il parle de condamnation, et puis il parle de la loi. Et il dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus condamnés. Ils ne sont plus condamnés parce qu'ils ont été libérés d'une loi par une autre loi. Ils ont été libérés donc de la loi de l'esprit de la loi du péché et de la mort par la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que Paul veut dire par là? On a vu tout à l'heure que tout le monde est coupable devant Dieu à cause de son péché, tout le monde est condamné donc selon la loi. C'est ce qu'on voit en particulier au chapitre 7 qui précède. Et Paul rappelle donc que maintenant, lorsqu'on appartient à Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc si maintenant il n'y a plus de condamnation, ça sous-entend qu'auparavant, il y en avait une. On constate que Paul s'adresse ici à ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui se sont confiés à Jésus-Christ, ceux qui l'ont reconnu comme sauveur et maître. Et Paul, c'est assez frappant, il leur parle directement, il les tutoie même, c'est très rare pour l'apôtre Paul d'utiliser comme ça la deuxième personne. Pardon que je cite le texte correctement, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Autrement dit, tu es libre, tu n'es plus condamné parce que tu n'es plus sous la loi qui te déclarait coupable. Il y a presque 20 ans maintenant, lorsque le mur de Berlin est tombé et que les pays d'Europe de l'Est ont adopté un système politique démocratique et libre, il y a des milliers de prisonniers politiques qui ont été libérés. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été libérés, ces prisonniers? Bien parce que le système juridique dictatorial qui les avait condamnés a été aboli. Comme ces pays ont changé de régime totalement, le système juridique n'était plus en vigueur. Et puisque ce système a été aboli, eh bien les prisonniers se sont trouvés automatiquement acquittés, graciés. Et Paul nous dit ici que si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ, nous nous retrouvons totalement libérés d'une loi qui nous condamnait. Cette loi, il l'appelle la loi du péché et de la mort. Un peu plus tôt dans la lettre, le chapitre 2, Paul a montré que tous les hommes ont une idée de la loi de Dieu. Alors les Juifs ont la loi de Moïse, qui leur exprime très clairement la loi de Dieu, mais Paul a montré que même les païens, même les gens qui n'étaient pas juifs, qui ne sont pas juifs, ont une certaine idée de la loi de Dieu. Et Paul appelle ça la loi de la conscience. Chacun a une idée de la manière dont il faudrait vivre. Mais à cause du péché qui envahit notre vie tout entière, aucun homme et aucune femme n'arrive par ses propres forces à obéir à la loi de Dieu. Je crois qu'on connaît tous ce problème. Est-ce qu'il y a un seul jour dans notre vie où nous n'avons fait que des bonnes choses, sans exception, où on n'a ni commis de mauvais actes, ni eu de mauvaises pensées, ni fait preuve d'insensibilité, d'indifférence, d'impatience, de manque de foi, de manque de maîtrise de soi, etc., etc. Ben, je pense que si nous sommes honnêtes, nous devons répondre non. Même ce qui peut nous apparaître comme des petites fautes, pas trop graves, hein, ou pas trop visibles, ça contribue à une façon de vivre générale qui est caractérisée par le péché, qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure, un Dieu parfaitement saint ne peut pas supporter le péché. Alors, quelle est cette loi du péché et de la mort dont Paul parle au verset 2 ? Ben, je crois que c'est ce mécanisme infernal qui fait que, quels que soient nos efforts, si nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes esclaves du péché. Nous vivons une vie qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et les conséquences de cela sont terribles. Ben, Paul n'hésite pas à parler d'une loi de la mort. Ça mène vers la mort. Parce que jour après jour, nous nous retrouvons coupables aux yeux de Dieu. Et cette culpabilité, elle aboutit donc à la mort spirituelle, à la séparation éternelle de Dieu. Pas facile tout ça. Mais dans notre passage, Paul nous annonce que nous pouvons être totalement, je dis bien totalement, libérés de cette condamnation qui pourtant aurait dû être inévitable. Pourquoi ? Parce qu'une autre loi est intervenue. La loi que Paul appelle la loi de l'esprit de la vie, verset 2. Et cette loi, donc, elle a remplacé et elle a aboli pour ceux qui sont en Christ, ce cercle vicieux du péché. Alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, Paul va l'expliquer au verset 3 à 8. Alors, dans ces quelques versets, qui ne sont pas très simples, il faut l'avouer, Paul, à plusieurs reprises, va parler de la chair. Alors, quand on entend la chair, on ne sait pas toujours de quoi Paul parle. Alors, je crois qu'aujourd'hui, quand on entend la chair, on a tendance à penser à une vie très excessive, et ça peut évidemment être cela. Mais en fait, quand Paul parle de la chair, c'est pas avant tout cela qu'il veut dire. Vivre selon la chair, pour Paul, c'est vivre selon ses propres ressources, selon soi-même, sans l'aide de Dieu. Le verset 3 n'est pas très facile à comprendre. Paul nous dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. » Évident. Mais je crois que ce que Paul nous explique ici, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, est venu vivre notre condition humaine, sans péché, bien sûr. Et en tant que représentant de l'humanité, il s'est fait, lui, condamné pour le péché des hommes. Et il l'a fait, verset 4, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous. Et là, il faut s'arrêter un instant, parce que c'est vraiment très très important. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Jésus, donc, est venu totalement partager notre condition humaine. Jésus est un homme à part entière, mais qui n'a jamais péché. Jésus, en tant qu'homme, a toujours, sans exception, été obéissant à Dieu. Or, c'est Jésus, cet homme, l'unique homme, à n'avoir jamais péché, qui a librement accepté d'être notre représentant devant Dieu. Et pour que nous ayons un représentant, il faut que ce représentant il soit valable. Mais pour que ça, il faut que ce représentant soit valable et il faut qu'il soit notre semblable. Mais il fallait aussi qu'il soit innocent. Et c'est ce que Jésus est, un homme à part entière, mais un homme innocent, un homme juste. Si Jésus avait été coupable comme nous, il n'aurait pas pu être notre remplaçant devant Dieu, notre substitut. Imaginons qu'il y ait trois personnes qui ont une dette à payer. Aucune des trois n'arrive à la rembourser. Ils sont complètement endettés jusqu'au cou. Et ben, il est impossible qu'il y ait un des trois qui dise « Bon, écoutez les gars, laissez, je vais payer la dette pour nous trois. » Alors que lui-même est endetté totalement. Ce n'est pas possible. Il faut que quelqu'un qui n'est pas endetté paye la dette à leur place. Et précisément, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Lui, le seul à ne pas être atteint par le péché, le seul à avoir vécu une vie entièrement juste, s'est présenté devant Dieu le Père et il a dit « Punis-moi à leur place, je vais les représenter. » Cette représentation donc de Jésus, elle a une double conséquence pour nous. Les deux sont directement liés. Premièrement, notre péché a été pardonné est totalement effacée. Pourquoi ? Parce que Jésus est totalement innocent. Et deuxièmement, nous sommes représentés, justement, par quelqu'un qui est totalement innocent. Et donc, par conséquent, Dieu nous considère, nous-mêmes, comme totalement innocents. Puisqu'on est représenté par Jésus, qui n'est pas pécheur. Lorsque Dieu nous voit, il voit notre représentant Jésus, qui n'est pas pécheur. Voilà ce qui s'est passé à la croix. Voilà pourquoi l'évangile, la bonne nouvelle, est tellement extraordinaire. Et donc, si vous avez remis votre vie entre les mains de Jésus-Christ, votre représentant, votre substitut, Dieu vous déclare et vous considère comme totalement innocent, comme définitivement pardonné et réhabilité à ses yeux. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de la justification dans le Nouveau Testament. Et ça vaut la peine de s'en souvenir, parce que ça transforme totalement la vie. Revenons-en un instant à cette notion de loi. Nous sommes donc libérés de la loi qui nous déclarait coupables et qui nous menait à la mort. Alors, à quelle loi est-ce qu'on appartient désormais ? Eh bien, et lorsqu'on dit à quelle loi appartenons-nous désormais, peut-être une façon qui nous parle, de le dire, qui nous parle un peu plus, c'est de dire, qu'est-ce qui dirige ma vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est la norme de ma vie ? Qu'est-ce qui dirige ma vie ? Eh bien, Paul nous dit que nous obéissons désormais à la loi de l'esprit. Il nous parle d'une loi nouvelle qui est mise en œuvre dans notre cœur par le Saint-Esprit. Paul nous dit que c'est une loi de liberté, verset 2. Il nous dit au verset 4 que c'est une loi, en fait, qui nous pousse à accomplir ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et puis au verset 6, il nous dit que c'est une loi qui nous emmène non plus vers la mort, comme le faisait l'ancienne loi, mais qui nous emmène vers la vie et la paix. Donc, comprenons bien ce que Paul nous dit. Nous étions esclaves autrefois d'une loi qui ne faisait que nous condamner encore et encore, quoi qu'on fasse. On se retrouvait toujours condamné devant Dieu. Mais maintenant, nous avons été libérés totalement par une autre loi, la loi de l'Esprit, qui nous guide dans notre vie nouvelle d'homme, de femme, pardonné et libéré pour servir Dieu. Ça peut paraître un peu extrême comme alternative. D'un côté, quelque chose de terrible, la loi du péché, de la mort qui ne fait que nous mener vers la mort éternelle. Et de l'autre côté, la loi de l'esprit qui nous mène vers la vie éternelle. Mais effectivement, c'est une alternative qui est saisissante, qui est totale. Être l'ennemi du Dieu Tout-Puissant, c'est quelque chose de terrible. Comment est-ce qu'on va tenir si, au jour du jugement, on est l'ennemi de Dieu ? Comment est-ce qu'on peut avoir un quelconque espoir ? Être réconcilié au Dieu Tout-Puissant, à celui qui juge, être en paix avec lui, être considéré innocent à ses yeux. C'est magnifique. Alors il n'y a vraiment pas à hésiter entre ces deux possibilités. Après ce rappel de la bonne nouvelle, l'évangile, Paul va passer aux conséquences de cette libération qu'on vit tous les jours. Ça nous intéresse de savoir quelles conséquences ça peut avoir pour notre quotidien. À quoi ressemble concrètement la vie chrétienne ? Et je dirais que Paul nous dit en fait la chose suivante. Il nous dit que c'est une vie qui est vécue main dans la main avec Dieu. Donc c'est le deuxième point, la vie par l'esprit, versets 12 à 17. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en train d'essayer de faire quelque chose et puis vous avez du mal. Par exemple, moi je ne suis pas très manuel, donc tout ce qui est réparation, etc., souvent j'ai beaucoup de mal. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui propose de vous aider. Et puis il fait la chose que vous n'arrivez pas à faire. Et puis alors qu'il est en train de le faire, alors qu'il est en train de finir, vous avez peut-être tendance à dire « Ok, merci beaucoup, en fait, je vois comment ça marche, maintenant je vais m'en occuper, ça va aller. » Et en fait, ça ne va pas forcément aller. Mais on a sa fierté. Et même si on est bien content de s'être fait aider, on veut quelquefois se donner un peu l'illusion qu'en gros, on a quand même réussi un petit peu soi-même aussi. Et je crois que bien souvent, nous avons la même attitude à l'égard de Dieu. Et je crois que c'est ce que Paul nous dit ici aussi. C'est-à-dire que nous nous reconnaissons pécheurs. Nous décidons de lui confier notre vie. On est heureux que nos péchés soient pardonnés, mais ensuite on dit à Dieu, d'une certaine façon, merci, c'est sympa pour le coup de main. Maintenant, je vais quand même essayer de m'en tirer un peu tout seul, mais je sais que si j'ai besoin d'aide, je peux toujours t'appeler. Et je crois que c'est de ça que Paul parle au verset 12. Il nous dit que ce n'est pas envers la chair, c'est-à-dire, encore une fois, envers nous-mêmes, envers nos propres ressources, c'est pas envers la chair que nous sommes débiteurs. C'est pas à nous-mêmes que nous devons cette vie nouvelle. C'est à Dieu que nous la devons. Au verset 13, Paul nous rappelle que si nous nous confions en nos propres forces, on va faire que se retrouver une fois de plus dans ce cycle infernal du péché et de la condamnation. Et à quoi ça aboutit ? À la mort. Alors pourquoi vouloir essayer de nous en sortir sans l'aide de Dieu, alors qu'il nous propose précisément son aide ? Non seulement il nous la propose, mais il nous l'offre, il nous la donne. On ne fait que s'exposer à un échec certain. Alors que tout a été fait pour nous, alors que Dieu a tout fait pour nous aider à nous en sortir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette attitude ? Pour continuer à marcher avec Dieu, pour continuer à dépendre de Dieu, plutôt que d'essayer de s'en sortir par nos propres forces. Eh bien, Paul va utiliser une expression qui peut surprendre un peu, à faire mourir les agissements du corps. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, si on regarde les passages qui précèdent, on ne va pas le faire, je vous rassure, mais on voit que Paul associe le corps au péché et à la mort. Alors pourquoi cette association ? Ben, je pense que c'est parce que notre corps, qui reste marqué par le péché et qui va mourir un jour, notre corps représente notre être livré à lui-même. Mon corps, c'est moi. Et le corps, dans la pensée de Paul, représente ce que je suis par mes propres forces, quelque part. Et aussi, le corps représente, pour Paul, dans certains passages, la vie de péché qui est associée à cela. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le corps en soi qui est mauvais. Dans plusieurs passages, Paul parle du corps de façon très positive. Il appelle le corps, notre corps, le temple de l'Esprit-Saint. Donc c'est bien que Paul ne méprise pas le corps, mais c'est qu'il parle ici du corps comme étant notre être livré à lui-même. Et donc Paul nous dit que nous devons mettre fin à notre vie tournée vers soi-même, une vie dans laquelle nous faisons confiance à nos propres ressources physiques et spirituelles pour nous en sortir. Et c'est justement le Saint-Esprit, cet esprit que Dieu donne à ses enfants pour les aider à mieux le connaître et à vivre d'une manière qui lui plaît. C'est cet esprit qui vient à notre secours et qui nous aide à nous défaire de tous les agissements qui nous éloignent de Dieu. Et la vie avec le Saint-Esprit, ça n'a plus rien à voir avec la vie que nous vivions auparavant, avec cette vie vécue dans le cercle vicieux du péché qui nous rendait coupables sans cesse aux yeux de Dieu. Non seulement le Saint-Esprit nous enseigne à vivre différemment, mais il nous rappelle aussi que nous appartenons à Dieu. Et Paul nous dit que nous lui appartenons, non pas comme des esclaves, mais comme des enfants adoptés. Les versets 14 et 15 nous disent quelque chose de tout simplement magnifique. Je crois que, quelquefois, quand on est habitué à lire ces passages, on en perd un peu la force, alors que c'est incroyable ce que nous dit Paul. Il nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Paul nous dit que dans cette vie nouvelle que nous vivons avec l'aide de l'Esprit-Saint, nous avons une relation tellement immédiate et tellement proche avec Dieu qu'on peut même lui adresser la parole à tout moment, 24 heures sur 24, parce qu'il est notre Père. Ce n'est pas notre patron, c'est aussi notre maître, mais c'est notre Père. Nous pouvons l'appeler Abba, nous dit Paul. Et c'était un mot en araméen qui était une expression affectueuse qu'on adressait à un Père. Paul nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous rappelle, l'Esprit nous rappelle de diverses manières, que nous sommes vraiment les enfants adoptés de Dieu et que nous avons réellement cette relation incroyable avec lui. Si jamais il y avait un membre de votre Église qui connaissait personnellement le Président de la République, je pense que vous seriez, on va dire, vous seriez au moins impressionné. Vous diriez, tous les dimanches, je vois un tel, et puis c'est un proche du Président. Alors, je ne sais pas si vous enviriez cette personne ou pas, ça dépend peut-être des préférences politiques de chacun, mais je pense quand même qu'on serait impressionné si on connaissait quelqu'un qui était un ami proche du président de la République. Ou de même si, je sais pas, Zinedine Zidane entrait un jour dans l'église évangélique de plaisir, j'imagine qu'on en parlerait pendant assez longtemps après. Vous vous souvenez le jour où Zidane est venu à l'église ? Ça serait quand même assez extraordinaire. Et ce qui est assez fou, c'est que nous perdons de vue le fait que, pour nous qui sommes en Christ, nous avons C'est vrai qu'on ne connaît peut-être pas Zidane, et on ne connaît peut-être pas Sarkozy, mais nous avons une relation personnelle, proche, intime avec Dieu lui-même, avec le Créateur, avec l'Éternel des armées, avec celui qui a dit que la lumière soit, celui qui est le maître de l'histoire. Et pourtant, et puis je m'inclus bien sûr dans cette remarque, il est rare que nous en soyons émerveillés. C'est quand même beaucoup plus extraordinaire que de connaître Zidane ou le président. Sans même le vouloir, on prend ça à la légère. Comme si c'était normal que Jésus-Christ nous appelle ses amis. Comme si c'était normal de pouvoir nous adresser à tout moment au Seigneur de l'univers. Est-ce que vraiment on réalise à quel point c'est un privilège inimaginable? Et on voit que l'apôtre Paul, il s'émerveille. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous nous enthousiasmons pour tellement de choses dans la vie et nous perdons de vue que nous avons été délivrés de la mort spirituelle et nous avons été adoptés comme enfants par Dieu lui-même. On est plein d'enthousiasme lorsqu'on a obtenu une promotion au travail, lorsqu'on passe des vacances formidables, ou plus encore lorsqu'on rencontre l'âme sœur, lorsqu'on a un enfant. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs de s'enthousiasmer pour ces choses. Mais pourquoi est-ce qu'on est souvent si blasé devant une réalité qui dépasse infiniment tout cela? Si je connais Dieu, si j'ai la possibilité de lui adresser la parole à tout moment, et si Dieu m'adresse des promesses extraordinaires, pour en dire un mot, bah, tout le reste ne peut que pâlir par comparaison. Il n'y a rien de normal à cette relation intime, personnelle avec Dieu. C'est extraordinaire, c'est un miracle. Et il n'y a strictement rien en nous, évidemment, qui nous fasse mériter un tel accueil, une telle relation auprès de Dieu. C'est purement grâce à Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est purement grâce à cela que nous pouvons aujourd'hui vivre cette relation avec Dieu. Et Paul ne s'arrête pas là, il en rajoute une couche, si j'ose dire, au verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. » Alors, héritier de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire évidemment que Dieu va mourir un jour et qu'on va récupérer ses biens, mais ça veut dire que Dieu nous offre un avenir. Il nous offre une garantie pour l'avenir. Et quel avenir? Eh bien, Paul nous dit que nous sommes co-héritiers du Christ. Nous allons hériter ce que Christ a hérité. C'est-à-dire que Dieu va faire pour nous ce qu'il a fait pour son Fils. Et qu'est-ce qu'il a fait pour son Fils? Eh bien, il l'a ramené de la mort à la vie et il lui a donné un corps glorifié, un corps nouveau pour l'éternité. Alors, si vous vous dites que ça paraît trop beau tout ça, vous avez raison. C'est trop beau, mais pourtant c'est vrai. On ne le mérite absolument pas. Si nous avons donné notre vie à Christ, nous entrons dans une relation éternelle avec un Dieu éternel. Et éternel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça ne s'arrête jamais. J'imagine que pour certains d'entre vous, vous vous dites que bah, tout ça, c'est vrai, c'est magnifique sur le papier, mais que dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas forcément l'impression de vivre une telle idylle, quelque chose d'aussi incroyable. Toutes ces choses magnifiques nous sont promises, peut-être que théoriquement je peux y croire, mais en attendant, et ben même si je peux parler librement à Dieu et tout ça, ben c'est pas facile ma vie en ce moment. Et peut-être que c'est très difficile pour vous. Mais figurez-vous que l'apôtre Paul, sa vie n'a pas été facile du tout. Et donc, en écrivant ces lignes, il est parfaitement conscient que la vie chrétienne, c'est pas une sorte de partie de plaisir constante. Et dans la deuxième partie du chapitre, que nous n'allons pas voir ce matin, mais je vous encourage à la lire par vous-même, il va expliquer pourquoi nous souffrons en attendant cet avenir magnifique. Il va donner un sens à cette souffrance. Et il va nous montrer que malgré la souffrance et les difficultés, la vie chrétienne, dès aujourd'hui, c'est une vie extraordinaire. En fait, les souffrances, Paul les évoque déjà dans le verset 17. Il nous dit que nous sommes co-héritiers du Christ, mais que ça va impliquer des souffrances. Je relis la fin du verset 17. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Nous sommes co-héritiers du Christ et Christ a souffert avant d'être glorifié. Mais au-delà des souffrances, il y a la gloire. Paul n'hésite pas à dire la gloire. Donc la vie chrétienne, nous dit Paul, c'est une vie souvent difficile, et il va bien l'expliquer dans la deuxième partie du chapitre. Mais c'est une vie qui avance tout droit vers la présence éternelle et la gloire de Dieu. Alors je voudrais vous laisser une question. Première question d'abord, est-ce que je connais Dieu personnellement par Jésus-Christ ? Si oui, je bénéficie du privilège le plus extraordinaire qui soit concevable pour un être humain. Je répète, je bénéficie du privilège le plus extraordinaire qui soit imaginable pour un être humain. C'est votre cas si vous connaissez personnellement Dieu en Christ. Si la réponse est non, si vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu personnellement, alors je vous invite vraiment à ne plus laisser passer cette occasion qui vous est donnée aujourd'hui de venir à lui. Dès aujourd'hui, vous pouvez entrer en relation avec Dieu. Vous pouvez recevoir ce salut gratuit qui vous est offert en Christ. Vous pouvez déclarer que Jésus-Christ est votre maître. Vous pouvez reconnaître qu'il est celui qui a le pouvoir de vous réconcilier définitivement à Dieu. Vous pouvez accepter de faire de lui le centre et la priorité absolue de votre vie. Est-ce que ça va être facile tous les jours ? Non. Paul ne dit pas du tout ça, il dit même le contraire. Il dit que ça ne va pas être facile tous les jours. Mais être chrétien, autrement dit être en Christ, c'est tout simplement, et sans aucune exagération, c'est la chose la plus extraordinaire que nous puissions connaître, que nous puissions vivre. Alors vivons-le. Soyons des hommes et des femmes, des enfants, profondément heureux, parce que nous connaissons le Dieu vivant. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, tu vois que dans nos circonstances quotidiennes, nous avons si vite, si facilement tendance à oublier tes promesses et à oublier ton œuvre, à oublier ce que tu as déjà fait dans notre vie, à oublier que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous et ressusciter pour nous également, à oublier que tu nous as donné ton Esprit qui nous aide à vivre dans ta présence quotidiennement, qui nous aide à comprendre et à discerner ta volonté, qui nous aide à nous défaire de ces agissements qui nous éloignent de toi. Mais Seigneur, ce qui est extraordinaire, c'est que tu nous as déjà déclaré juste en Jésus-Christ, si nous lui avons fait confiance, si nous nous sommes tournés vers lui. Et rien ne pourra changer cela. Car Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir fait cela pour nous. Nous ne méritions pas et pourtant tu l'as fait par amour, par grâce. Merci notre Dieu. Seigneur, je te remets ceux et celles qui ce matin peut-être ne te connaissent pas encore, mais je te demande vraiment de les aider justement par ton esprit à comprendre à quel point ils ont besoin de toi et à quel point ces promesses que tu leur adresses sont incroyables. Je te prie que tu les bénisses. Seigneur, je te remets cette église et je te prie de continuer à la faire grandir en foi, en espérance et en amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus. Amen.